Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous.
C'est tiré d'un bouquin, ça.
Je connaissais pas.
C'est il y a les gros fanboys de Spielberg qui sont en train de se masturber dessus partout, ouais. Sur Twitter, en train de dire oh là là, mais vous vous rendez compte,
Il est tombé bas ou...
Non, en train de dire que c'est génial. Après moi, je suis désolé, sur ce trailer là, peut-être que oui, t'as peut-être un peu envie de le voir, mais c'est pas non plus la folie. Mais bon.
Ça me fait penser à Sucker Punch un peu.
Ah ouais.
Ouais.
Pourquoi ? Là, il y a des gens qui doivent t'écouter en train de se dire comment ils comparent Steven Spielberg à...
Non, tu sais, dans le mélange entre la... un mélange entre Sucker Punch et Tron.
Ouais.
Tu vois ?
Ah oui, je vois, la réalité virtuelle, voilà. Et en même temps plusieurs mondes différents, ouais. Ouais, en même temps, ouais, c'est vrai, t'as totalement raison.
Et culture geek intégrée à la réalité virtuelle.
Ouais. J'avais lu le bouquin, moi. Et c'est pas un bouquin que je trouve génial.
Ouais.
Je sais que ça tournait beaucoup autour des années 80 dans le bouquin, parce qu'en gros...
c'est un vieux livre.
Alors là, vieux, non, je pense pas.
D'accord.
Parce que justement, ça... Non, il date, je crois, des années 2000, et où justement, parce que le protagoniste parlait des années 80 comme étant la meilleure période, etc.
Ce qui est vrai.
Ouais. après, oui, moi, je suis un gros fan de tout ce qui est Stranger Things, etc. Mais là, dans celui-là, j'ai pas l'impression que ce soit spécialement... Parce qu'il y a du Tron, mais il y a aussi genre le géant de fer, tu l'avais vu au début,
oui.
Des choses comme ça.
Oui.
C'est pas années 80, c'est typiquement années 90 plutôt.
D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai revu le Tron, tu sais, qui était ressorti.
Legacy ?
Oui.
Ouais.
Et il est loin d'être si mauvais que ça. Hein.
Ah, mais moi j'ai adoré le Tron Legacy.
Parce qu'il a été hyper critiqué.
Oui, non, mais Tron Legacy, c'était pour moi, enfin, la BO de Daft Punk et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin, j'avais trouvé ça très très plaisant. C'était...
Dans le même style de film qui a été vraiment trashé à sa sortie, Oblivion par exemple.
Ouais, qui est honnête, hein, moi je trouve que c'est
complètement. En plus, avec l'excellente musique de M83 que j'adore. Mais,
Ouais. Mais c'est vrai qu'on est totalement dans ce genre de film de SF où, je sais pas, oui, j'ai envie d'y apposer des néons, tu sais.
Oui.
C'est ça.
Avec de la musique électro.
D'autres bandes. Ah oui, tu voulais parler de Mother, rapidement.
Ouais, l'ambiance, elle est... Alors, c'est le prochain film de Darren Aronofsky.
Aronofsky, ouais. Avec Javier Bardem, Jennifer Lawrence.
Qui avait fait Noé, qui était vraiment...
Dernièrement.
Qui a fait d'autres films. Mais celui-là, je trouve que l'a un peu ralenti dans sa carrière, qui était vraiment une carrière ascensionnelle, qui était considéré comme le futur grand génie.
En aussi.
Ouais.
Enfin, oui.
Entre Black Swan et Requiem for a Dream.
Bien sûr. Enfin, je pense pas qu'il ait été si.
Noé était vraiment mauvais, quoi.
Bah, en fait, je pense que Noé. Moi, j'ai pas trouvé mauvais Noé, et je pense même qu'il risque de gagner un statut culte. Mais bon, Mother, c'est une autre histoire. Je sais pas trop quoi en penser.
Ça a l'air du Darren Aronofsky, malsain, gênant, angoissant, très anxiogène, avec la magnifique, la sublimissime Michelle Pfeiffer. J'adore cette actrice.
C'est marrant parce que il avait pas trop le côté malsain dans ses autres films, à part Black Swan, en fait. Ça a commencé avec Black Swan, j'ai l'impression.
Requiem for a Dream, mais bien malsain, quand même.
Non, mais tu vois, cette espèce de côté malsain, mais intimiste, familial, quelque chose comme ça, tu vois. Ça ressemble un peu à du Guillermo del Toro, ouais. À Crimson Peak, là, la bande-annonce de Mother. D'ailleurs, je sais pas du tout de quoi ça parle, en fait. parce qu'on a l'impression qu'ils viennent de déménager dans une maison en mode
et
Amityville.
Ils accueillent les gens bizarres, ouais. Sans problème.
Je sais pas du tout. Rosemary's Baby, un peu, tu vois.
Ouais, des... Marie, elle a... il y a une histoire d'enfant. De toute façon, si ça s'appelle Mother, c'est qu'a priori, ouais. Soit elle,
les spéculations. J'aime bien. Personne n'a lu le synopsis, mais on rend dans les spéculations.
Puis l'excellente Jennifer Lawrence, quand même. J'adore cette actrice.
Tout le monde est amoureux de Jennifer Lawrence. Bah. T'as hâte de voir quel film là, qui va sortir ?
Alors, l'adaptation du roman de Stephen King, La Tour Sombre. Non, je déconne. Non, ça.
Ah oui, ça, de... Ouais.
Voilà. J'ai lu le roman récemment, je ne l'avais pas lu, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on l'a toujours vendu comme un roman d'horreur, tout ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mm-hmm. Quand tu lis le roman, tu t'aperçois que c'est fait sous forme de chapitre très court, où effectivement, on tourne toujours autour de l'apparition à la fin du chapitre d'un clown qui a fait que la situation dont il parlait est devenue angoissante, macabre et terrible, avec un mort à la fin. Sauf que chacune des situations dont il parle, à chaque fois, ont trait à cette période-là des États-Unis, un moment important. Ouais. Par exemple, tu as tout un chapitre sur un jeune couple de gays qui se fait agresser et l'un des deux va se faire noyer dans la rivière locale de la ville en question. Et juste au moment où il se fait agresser, où le petit copain va voir son amoureux se noyer, il aperçoit sous le pont le clown qui lui fait un sourire comme ça. Et chacun de ces... Une autre fois, c'est une histoire avec une jeune juive qui s'émancipe un peu de son mari. Et donc, chacune de ces histoires, en fait, c'est le clown est juste un prétexte pour raconter un état d'esprit des États-Unis de l'époque.
Oui.
Et je trouve ça incroyable. Je n'avais jamais lu ça. Et je me suis dit, en fait, ce type n'a pas du tout écrit un roman d'horreur. Il a écrit un roman social. Je vais un peu pousser, mais à la Zola, tu vois, où il raconte comme ça une époque en prenant différents protagonistes et en leur racontant ce qu'ils ont à l'époque à affronter.
Oui, le clown, c'est un peu la présence diabolique. Bon, après, tu l'as fini là ou pas ?
Non.
Oui, parce que après, on recoupe quand même toutes les histoires des enfants, bien etc. Et, mais oui, je suis d'accord que c'est beaucoup plus clair et explicite le fait qu'il décrit un petit peu l'évolution de l'Amérique, en fait, dans pas mal de ces choses. Mmh. Je sais pas si ça va se rapprocher plus de ça dans le nouveau film.
Ils vont faire un film d'horreur, ce qui est normal, parce que c'est ce qu'on attend, ce que les gens attendent, ce que les producteurs ont dû demander, hein. C'est ça qui est bankable. Ils vont pas faire un film sur la société américaine dans les années 80.
Moi, c'est ce qui a créé la clownophobie pour pas mal de gens, notamment moi. Hein.
Moi, je déteste ça.
Sinon, d'autres films, toi, Antoine, que t'attends avec impatience, peut-être, qui vont sortir bientôt ? T'as vu des bandes-annonces, des choses comme ça ?
La planète des singes.
Bon, on va pas trop en parler.
Je rentre de vacances, j'ai vu aucune bande-annonce particulière.
Il est bronzé, il a fait plein de vitamine B.
Il ne s'est pas enfermé dans des salles de ciné.
Non, j'ai pas, là, il faut que je m'y replonge là.
On parle rapidement. Alors, Baptiste et moi, on a vu La planète des singes 2. Suprématie en français. War of the Planet of the Apes. J'ai bien aimé ce film. J'ai cru pendant la première minute et la séquence de titres où il te rappelle le titre des deux autres films, que ça allait être peut-être le chef-d'œuvre de la franchise, parce que je ne sais pas pourquoi, tu sentais que ça pouvait être vraiment quelque chose de très bon. Je l'ai trouvé un poil moins bon que le deuxième, qui pour moi était vraiment excellent, vision politique des choses. Aussi, on avait des personnages qu'on comprenait totalement, alors que dans le 3, j'avais plus l'impression qu'il y avait quelques prétextes pour arriver à certains endroits de l'intrigue, tu vois. Après, je suis d'accord avec... Je te coupe l'herbe sous le pied parce que je sais que tu as trouvé qu'il y avait des connotations bibliques. Et oui, il y en avait. Après, c'est pas ça forcément que j'ai trouvé le meilleur. J'ai re-adoré les choses plutôt politiques, le contexte un peu... nouvel esclavage, mur anti-mexicain, des choses comme ça. mais voilà.
Moi, c'est pas la partie qui m'a le plus plu, le côté politique, si tu veux. Ce qui m'a vraiment plu, c'est la dimension mythologique du récit. C'est-à-dire que, effectivement, ça commence comme tu racontes, de manière banale, il rappelle un petit peu donc, les hommes, les singes qui sont devenus intelligents et qui se rebellent. Et puis, on débouche d'un seul coup, alors moi, je m'y attendais pas du tout, et c'est ça qui m'a vraiment enthousiasmé, sur l'histoire d'un leader qui doit se révéler comme tel et qui va guider son peuple vers la liberté. Et la trame qu'ils ont prise, c'est point par point l'histoire de Moïse et l'Ancien Testament. Et donc, si tu veux, sauf que là, voir qu'en fait Moïse est un singe, et je trouve ça extraordinaire d'aborder ça sous cet angle-là, et que la destruction totale des hommes signifie pour ce Moïse-là la liberté pour lui et pour son peuple. Mmh. Et j'ai trouvé ça incroyable, et je pense que les vegans ont dû adorer ce film.
Mais moi, je trouve que franchement, c'est le meilleur discours politique fait actuellement au cinéma, c'est fait par la franchise de la planète des singes. Mais vraiment. Tout ce qu'il y a à dire sur les discriminations, c'est fait parfaitement dans les trois derniers. Je m'y attendais pas, en fait, à ce que ce soit une bonne franchise au premier, tu vois, même s'il était très bien. Enfin, je trouvais que c'était un film très bien, mais quand on a su qu'il allait avoir des suites, etc., j'aurais jamais parié sur le fait qu'en fait, ce serait vraiment génial. Et je trouve que bien joué, quoi. BG.
C'est vrai, hein, que le 2, moi je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je l'avais pas vu à l'époque. Je l'ai vu il y a 3 semaines avant de partir en congé en me disant comme ça je l'aurais frais en tête
pour le 3. Ouais.
Que je n'ai toujours pas vu, donc ne me spoilez pas s'il vous plaît.
Okay.
Et effectivement, moi j'ai adoré en fait le côté on peut vivre ensemble séparément parce qu'on peut pas s'entendre, mais on peut réussir à partager le même monde, on peut, etc., etc. Que pour une fois, c'est. En fait, il y a ni de gentil ni de méchant dans ce film.
Oui.
Sauf le factotum de César qui décide à un moment de prendre pour lui à son compte la guerre et de défoncer les hommes. Et donc lui, finalement, il a des traits très humains en fait, puisqu'il veut, il est raciste en fait. Il a peur de l'autre, donc plutôt que d'essayer de la connaître et de vivre avec, il préfère le tuer ou l'anéantir ou des choses comme ça. Et en plus, il y a des côtés de prise de pouvoir et d'écraser l'autre et de manipulation. Enfin, c'est très très bien fait.
Moi, je trouve que la transition est plutôt pas mal parce que là, dans le 3, je te spoil rien, c'est juste dès le début, mais on voit beaucoup moins de traits de primates chez les singes, en fait. C'est-à-dire que ils sont sur des chevaux.
De plus en plus de l'homme.
Ils tirent avec. Et du coup, on se rapproche de plus en plus de la planète des singes,
l'original. Si vous vous dans l'original, souvent, c'était inversé. C'est-à-dire que quand l'homme essaie de parler, les singes disent, mais regardez, il remue des lèvres comme s'il voulait parler, etc., etc.
On ne dira rien, il faut que tu vois le 3, là. pour ça, par
contre. Non, non, ouais, c'est vrai que c'est très, très bien. Donc, la planète des singes, j'attends d'aller le voir.
Et il y a pas mal de gens qui disent que ce serait peut-être une nomination aux Oscars pour Andy Serkis.
Ah bah oui,
et ce serait la première nomination aux Oscars d'un singe déjà. mais d'un acteur que l'on ne voit pas.
Bien sûr. On voit pas.
Et on en avait déjà parlé, je crois, dans d'autres épisodes, le fait que tu sais, il y a des films où en gros tu peux entendre la personne pendant tout le film, comme Her avec Scarlett Johansson, ou alors Phone Game avec Kiefer Sutherland, mais ils ne sont pas éligibles tout court à ça, et peut-être qu'ils vont changer les choses avec Andy Serkis.
Honnêtement, ce serait légitime parce que César, il est bouleversant, quoi.
Il joue
très très bien, son regard est bouleversant, et c'est dingue comment tu t'aperçois qu'il y a des scénaristes qui parfois vont pas arriver dans 1h30 de film à faire en sorte qu'un personnage soit saisi par le spectateur, que le spectateur comprenne ce qui dans le personnage lui permet, lui en tant que spectateur, de se reconnaître, tu vois, d'humain à humain, avec les mêmes inquiétudes ou quoi. Alors que César, en un regard, tu dis bah en fait oui, on est pareil, quoi. Alors que c'est un singe, et c'est vraiment extraordinaire les effets spéciaux qu'ils ont mis, et le jeu de...
Mais c'est en ça que c'est bien, parce que du coup, effectivement, les uns sont des hommes, les autres sont des singes. Et quand tu regardes le singe, tu viens de le dire, tu dis en fait on est pareil.
Oui.
Et donc l'allégorie, elle est parfaite, c'est de se dire à un moment, mettons nos différences de côté et concentrons-nous sur les choses.
Bien sûr.
Voilà.
Mais je pense pas que ce film aurait pu être fait à l'époque, parce que c'était ridiculissime. Quand tu regardes les acteurs cachés sous du maquillage grossier, c'est ridiculissime, tu peux pas.
Non, non, mais il faut, CGI, là. Des bonnes images de synthèse, là. Je pense qu'ils l'ont fait au moment parfait, là. D'autres films qu'on a... Ah oui, Valérian, vite fait, peut-être.
Tu l'as vu ou pas?
Et non, non plus, je l'ai pas vu, mais ça a l'air nul. Je veux pas...
Je vais pas être... Enfin, je sais pas quelles sont les critiques. Je crois qu'il se fait bien défoncer, je pense.
Bah oui, bien sûr, c'est Besson, alors.
Alors, voilà, moi... Je suis un fanatique du cinquième élément.
Oui, comme ça.
D'accord. Et il y a des choses que je reconnais du cinquième élément, et ça a fait vibrer ma corde de nostalgie. Quoi. Mais plus que ça, quelque part, c'est une corde de science-fiction qui s'est formée grâce au cinquième élément. Donc, je reconnais des petites choses que Besson fait dedans. Il y a pas mal de choses originales, mais malheureusement, et d'inventivité de SF. Mais malheureusement, qui ne sont jamais au service de l'histoire.
Et c'est le gros problème, parce que après, c'est une juxtaposition de scènes bizarres qui viennent un peu de nulle part, pour pas grand chose. Et je trouve que c'est que le futur est mal pensé, en fait. Il y a un truc de rapport à la femme, par exemple, ou choses comme ça, où clairement tu te dis, bon, là, vu la société actuelle, on va clairement pas vers ce côté-là.
Bien sûr.
Et il a fait quand même sa vision du futur des années 90. C'est-à-dire, donc on est
les mêmes stigmates sexistes dans le film qu'aujourd'hui. Et voilà. Donc tu dis c'est pas possible, c'est dans le futur normalement.
Donc... Exactement. Donc c'est un peu étrange quoi.
Après je dois dire que j'ai été émerveillé du début à la fin. Au niveau des couleurs,
visuellement.
Ouais. Des bruits, j'avais pas vécu ça depuis mon week-end à Amsterdam. Vraiment.
Depuis que j'ai pris 6 kilos de champignons, j'avais jamais vécu ça.
Non, c'est incroyable. J'avais une copine devant moi, elle me disait putain, j'ai cru que j'allais vomir. Non, moi j'étais émerveillé quoi, vraiment. Et je trouve ça dommage parce que Luc Besson se prend dans la gueule toutes les critiques du monde où on lui reproche d'avoir pioché dans Star Wars ou quoi, alors qu'en fait c'est George Lucas qui avait pioché à la base
dans Valérian
pour faire son Star Wars. Et j'adore Star Wars, mais encore une fois les Français se font baiser quoi.
Oui, dans ça. Et puis oui. Et après, pour ceux qui n'ont pas vu Jodorowsky's Dune, où il y avait énormément de choses, mais effectivement, pas mal de choses ont été piquées déjà de Valérian. Après, en fait, j'ai aimé dans ce film ce que je pensais détester, c'est-à-dire Clara Delevingne.
Elle est bien, qu'est-ce qu'elle est belle,
qui joue plutôt bien et qui a un bon ressort semi-comique. Et Rihanna, la scène de Rihanna, j'ai adoré aussi.
Qui est touchante aussi.
Pour le coup, ça sort par contre de nulle part aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu analyses juste l'intrigue générale du film, il y a des choses, je veux dire, c'est complètement...
Et le sous-texte est un peu malsain quand même pour Rihanna.
Oui, non, mais enfin, l'entrée dans ce personnage et la sortie de ce personnage sont complètement... C'est des cheveux, un cheveu sur la soupe.
La soupe décide de les aider parce qu'elle veut être libre, mais bon,
Dan DeHaan, un gars que j'aime bien, adoré dans Chronicle. Et il fait de la merde.
C'est vrai.
C'est de la merde. Et donc,
On en avait parlé déjà, mais en fait, un bon acteur, s'il a un mauvais metteur en scène
c'est l'écriture, là. Et franchement, voilà. Ils ont des choses à dire qui sont totalement bizarres. Ils commencent le film avec une espèce de relation amoureuse, mais en fait, au début, je sais pas si c'est censé être une blague, il est censé être un séducteur, mais on ne montre jamais en fait. Il est jamais séducteur dans.
Quand on nous montre qu'il est torse nu et il ferait pas bander.
Il y a un gros problème de casting par contre. Il y a un gros problème de casting parce qu'on est censé croire que c'est un super spy badass qui tatane les gens. Et même quand tu le vois tataner des gens,
tu t'y crois pas.
Ouais. Ou alors la scène d'après, tu te dis ah mais non, il y arrivera jamais. Alors que tu viens de le voir tataner. Et voilà, il fallait prendre quelqu'un qui suintait le.
Un morceau de bois mort a plus d'expression.
Fallait prendre Jason Statham.
Oui,
ou The Rock. Valérian. Mais n'empêche, dans la BD, c'était plus ou moins un quarantenaire. Enfin, trentenaire. Donc,
faut que j'aille le voir pour me faire ma propre opinion. Mais
ça, après, je sais pas. Après, si le box-office est moisi, est-ce qu'ils vont faire une suite? Parce que peut-être qu'il y a moyen de redresser la barre.
Il y a quand même 5 millions d'entrées, je crois, la première semaine.
En France?
Non, ils veulent égaler 5 millions d'entrées, ils en sont pas loin.
Quoi. Il a fait un bon démarrage.
Ouais, ça fait apparemment c'est pas trop mauvais.
Bon, contrairement aux États-Unis, puis il y a le marché chinois, où ça va peut-être marcher, tu vois.
Ah oui, ça c'est pas faux. Ah ça c'est pas faux parce que
j'ai entendu dire qu'il était déjà rentabilisé.
Coproduit par la Chine, et d'ailleurs c'est vrai qu'on voit pas mal de Chinois aussi dans.
Il y a des films qui sont plus ou moins des échecs, mais qui sont sauvés par le marché asiatique.
Par les Chinois, Rogue One.
Ouais, non, trop pas, il a très très bien marché. Mais Warcraft dedans, notamment, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ils vont faire une suite grâce à la Chine. Je sais pas quoi dire vraiment d'autre que. Il est pas activement mauvais, tu vois, c'est pas ultra de la merde, contrairement à. La tour sombre.
Ah, la tour sombre.
Sortez l'artillerie. Reste rien de ce film. On vient de le voir et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien.
C'était
quoi.
Régalade.
T'as vu la transition de fou. Alors, par contre, suis ultra mal préparé parce que je n'ai pas pris la fiche de la tour sombre. J'étais encore.
Même Google l'a oublié.
Encore sur. sur mon téléphone que je ne reçois pas sur le colis colissimo.com. Voilà, ok. La Tour Sombre, donc The Dark Tower, est un western de fantasy science-fiction américain réalisé par Nikolaj Arcel, donc qui est sorti le 9 août 2017 avec entre autres Idris Elba, Matthew McConaughey. Un petit clip.
Ce ne sont que des rêves. Ce n'est pas réel, Jake.
Il existe un autre monde. Je sais qu'il y en a un.
Oh. Qui es-tu?
C'est vous. Vous êtes un chevalier, non?
Il n'y a pas de chevalier. Il n'y en a plus.
Pourquoi l'homme en noir veut détruire la tour?
La tour protège nos deux mondes. Si elle tombe, l'enfer se déchaînera.
C'est le diable, alors?
Non, il est pire.
Tu ne peux empêcher ce qui va arriver. La mort gagne toujours.
Votre monde est peut-être fini, mais pas le mien.
Et du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Là, je regarde, j'en profite pour regarder rapidement les travaux de ce réalisateur. Ah oui, il avait fait La Royal Affair, qui était un plutôt bon film avec Mads Mikkelsen. Mais qui n'avait absolument aucun rapport avec ces choses. Est-ce que vous connaissiez la franchise
Jamais entendu parler.
Donc c'est tiré d'un bouquin de Stephen King qui a été ensuite mis en comics. La première fois que j'ai vu Dark Tower, c'était en comics parce que le comics a eu un essor incroyable en fait. Mm-hmm. Et je pense que si on parle de Dark Tower aux gens en général, ils te parlent du comics avant même de parler du film. Mais c'est du livre, pardon. Et le livre, c'est un truc en 12 tomes, mm-hmm. tu vois, qui fait durer depuis les années 2090 ou un truc.
Stephen King a toujours dit que c'était pour lui sa saga, le Jupiter de son imagination. Il a toujours dit. Voilà.
Putain, c'est triste, hein.
Très mal servi, quoi.
Les livres sont peut-être bien,
effectivement. Non, oui, sûrement que les bouquins sont bien. Tu vois clairement qu'il y a un univers derrière, la science-fiction transdimensionnelle, et puis ce qu'on retrouve beaucoup dans les Stephen King, avoir une espèce de mal qui est incarné par une seule personne. Ouais, je pense beaucoup au fléau, en fait, quand tu regardes ça.
Dans Cell aussi, je sais pas si tu l'as vu.
Oui, tout à fait. Oui. Mais moi, je veux pas vous cacher que là, j'ai fait du développé couché avec mes paupières pendant tout le film, quoi, parce que c'était ultra difficile de rester éveillé. Ouais. J'ai dormi que 3 heures la nuit dernière.
Ouais, j'ai fait
parce que j'écoutais des comédies musicales sur YouTube.
Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Des Misérables.
Mais
du coup, maintenant, je sais que si j'ai du mal à dormir, je me mettrai ce film, en fait. C'est super épique.
C'est odieux. C'est odieux. En fait, moi, pendant le film, je me suis concentré à réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous dire maintenant, en fait. Et en fait, j'ai vu un espèce de mélange de tous les films d'enfants que j'ai pu voir dans ma vie, tu vois.
Ouais.
De L'Histoire sans fin à Narnia, en passant par truc moisi en fait. Que
l'enfance d'Antoine, c'est quand il avait 23 ans.
Dont on a
ans.
Pu nous gaver, tu vois. Enfin, vraiment, voilà. Et je sais pas, il y a rien, on s'ennuie. Rien n'est exploité, rien n'est expliqué. On te survole tout.
Ouais. Il y a un rythme très bizarre. On passe très rapidement. Il n'y a aucune personnalité à l'enfant, par exemple.
Ouais.
Il n'est ni drôle, ni vraiment dans du désespoir complet comme on veut essayer de te le vendre. En fait.
Oui.
Donc, si tu as un personnage qui n'est pas drôle, enfin tu vois, ou qui n'a même pas une vie en fait réelle, parce qu'on ne le voit jamais faire quelque chose dans sa vie normale, si ce n'est juste dessiner ce dont il rêve, c'est pas du tout intéressant, on n'y croit pas en fait à sa vie.
Non, parce que soi-disant au départ, on voudrait te faire entrer dans un univers un peu à la Sixième Sens, tu vois, genre le gamin qui perçoit des choses que personne ne comprend, qui est seul à...
Qui n'est pas cru par sa famille.
Exactement, on le prend pour un fou et tout ce que tu veux. Puis en vrai, ça retombe comme un soufflet. Enfin, en fait, c'est pas exploité du tout. Ce qu'il voit se matérialise et on comprend qu'effectivement, il est pas fou, même si on le sait dès le départ. Mais ouais. Après, c'est plat. Enfin, y a rien d'intéressant. Y a rien
c'est
de
que
profond.
Des grosses ficelles, quoi. Ouais. Le coup de l'orphelin qui va trouver au cours de sa quête un père de substitution qui va l'aider à s'accomplir en tant que jeune adulte. Putain, mais on l'a vu un milliard de fois.
En fait, je pense que c'est le gros truc de ce film, c'est-à-dire que tout est vu et revu. C'est-à-dire non seulement l'intrigue, mais aussi dans la forme. Il y a des scènes d'action qui auraient été originales si elles étaient sorties en 99. C'est-à-dire que Il y a le personnage d'Idris Elba qui est le gunslinger, le pistolero qu'on est censé voir tirer sur des gars. Tu ne peux pas faire ce genre de film dans un monde post-John Wick. C'est-à-dire que dans un monde post-John Wick, si tes chorégraphies de gun sont chiantes comme ça, tu vois, c'est moins bien.
Il aurait dû regarder
Equilibrium,
tu vois.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, si c'est moins bien qu'un truc qui est sorti il y a 18 ans, c'est que tu t'es chié quelque part, quoi.
Non, mais en fait, le mec, t'as l'impression qu'il veut te faire, tu sais, une sorte de remix de Equilibrium et tout un tas de trucs où, genre, soi-disant, il tire dans tous les sens, mais en vrai, le mec, je pense que s'il accélère, il fait tomber un pistolet par terre, tu vois, tellement il est mauvais.
Mais
c'est un truc de fou.
Ouais, mais c'est assez mal filmé, très très mal monté, je trouve. C'est très très bizarre. Il y a des plans, il y a des scènes.
Il y a des ellipses comme ça, tu sais pas pourquoi, elles sont à cet endroit-là, à ce moment-là. Tu as des personnages qui débarquent, on connaît rien de la mythologie de ce monde. On sait pas qui sont tous ces méchants qui changent de peau, pourquoi ce type a pris le pouvoir sur ce monde-là qui a l'air post-apocalyptique. Pourquoi il est post-apocalyptique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué que les gens sont obligés de vivre sous des tentes, voilà.
C'est
en
quoi
même temps,
ce tour, tu vois.
Oui, oui, on a envie de savoir aussi ça.
Alors, mais même si tu voulais garder ça dans le mystère,
oui,
à ce moment-là, tu développes autre chose.
Oui,
et tu développes le
exactement.
Petit personnage. Au lieu de nous montrer juste une photo de son père qu'il a perdu, je sais pas, fais-nous une scène avec son père à l'époque. Enfin, là, je ne ressens
puis,
absolument rien pour lui.
Quel est l'intérêt des multiverses? Enfin, il y a plusieurs dimensions, clairement.
Ils vont que dans une des...
Et ils se baladent de l'une à l'autre. Quel est leur intérêt? T'aurais fait ça dans un seul monde, on en parlait plus, tu vois.
Et moi, je pensais que ce film, il allait être sauvé par Matthew McConaughey en mode méchant, et pas du tout. Et là, vraiment, tous les acteurs sont mauvais. Alors que
ce sont
de bons acteurs.
Bon, la maman, elle est bonne, hein.
Et la mère, par contre, il y a un gros. C'est celle qui joue la femme de Ragnar Lothbrok dans Viking. Elle était beaucoup trop sexy pour que je puisse me concentrer dans les 10 premières minutes du film. Je pensais qu'elle draguait son fils, franchement. Je pensais qu'il y avait un truc incestueux.
Mais elle a l'air fatiguée quand même, elle a des cernes un peu.
Mais attends, ton fils fait des dessins comme ça,
tu l'envoies aux Beaux-Arts, quoi.
Oui,
mais
exact,
bien sûr,
tu l'envoies aux Beaux-Arts, mais direct. Tu dis, tu fermes ta gueule, tu veux nous rapporter des millions. Attends, à 14 ans, il dessine comme ça, le gars, mais c'est...
On fait un petit résumé, peut-être, du film, parce que là, les gens, ils vont rien comprendre, on est en train de déboîter, et...
En gros, on suit Jake Chambers, qui est un gosse qui a perdu...
Qui veut dire Jacques Chambre.
Jacques Chambre commence à avoir des rêves bizarres, des cauchemars plutôt depuis un an, je crois, et
ouais,
il en fait des
ou
dessins.
Plus ou moins depuis la mort de son père.
Exactement.
Mais ça, on nous le dit
donc,
pas.
Donc, ce qui est considéré comme
un
stress
trauma
post-traumatique pour tout son entourage. Mais encore, en décrivant comme ça l'histoire, on a l'impression que c'est expliqué comme ça, mais non, en fait.
C'est nous qui l'avons saisi.
C'est-à-dire que.
On en a déduit ça.
En fait, je smooth un peu l'intrigue qui est très mal présentée dans le film.
D'ailleurs, le réalisateur est en train de t'écouter, il dit
putain,
mais c'est ça que j'aurais dû dire.
Mais, et en gros, dans ses rêves, il existe un monde parallèle qui est donc dominé par un méchant, un sorcier, qui utilise l'esprit de jeunes enfants pour détruire une tour qui est à l'origine de la protection du monde tel qu'on le connaît de démons qui viendraient sinon tout mettre à feu et à sang.
Ce qui est très Lovecraftien. C'est le seul truc qui m'a plu, c'est la référence aux grands anciens de Lovecraft. Mais Stephen King a toujours été inspiré par Lovecraft.
Ouais, mais là encore, enfin, le truc.
Mais c'est mal fait, quoi.
Ouais, enfin, c'est
vrai. On retrouve
que
aussi, tu
si on avait du lore, un peu de lore de la tour sombre, on serait impliqué un peu dans ça. Mais ouais, je sais pas trop. Mais ça veut dire que, genre, je sais pas, il fait ça depuis des dizaines d'années, je comprends pas, où il a commencé il y a que un an à utiliser des gosses pour faire ça.
Surtout, ce qui est ridicule, c'est que
pourquoi il a pas fait plus tôt,
là, si tu veux. Pourquoi il fait ça pour dominer le monde? Mais il le dominera pas. Vu la quantité de monstres qu'il y a à l'extérieur, il va faire quoi avec ses pouvoirs? Il peut rien faire, lui.
Vu que de toute façon, il est faillible.
Terminons le résumé, parce que là les gens ils vont rien comprendre. Désolé, je suis obligé de recentrer le podcast.
C'est
là.
Le papa du groupe. Il a
non, mais vraiment.
Non, mais parce que je suis en train de me dire là, clairement, soit vous avez déjà vu le film, soit vous en foutez complètement. Mais
bon, grosso modo, voilà.
Il rêve aussi donc d'un héros qui l'appelle le pistolero, qui est donc une sorte de Jedi avec un gun, qui est censé donc tuer ce sorcier là en fait, tout simplement, ou en tout cas protéger la tour.
Parce qu'en fait, on sait pas si le sorcier en question peut mourir. Enfin,
et de là, enfin, de rêve en rêve, il va avoir un indice pour, puisqu'il a vu dans son rêve une maison qui existe à New York, qui en fait contient un portail vers ce fameux autre monde où il va retrouver Idris Elba, qui est donc le pistolero. Et à partir de là, va se créer une connexion entre les deux, voilà, une quête pour le pistolero, juste se venger de l'homme en noir parce qu'il a tué son père. Et pour Jake...
S'échapper parce qu'en théorie, il est censé être capturé également par les hommes sans peau, là, pour lui aussi être utilisé pour tuer la tour. Et ce que l'on comprend, c'est que, grosso modo, le mec... Alors, en plus, il a le Shining...
Shining. Et après, ça, c'est un problème de traduction parce que ça s'appelle le Shine en anglais, pardon. Ouais. Et j'avoue que le fait d'appeler ça en français le Shining, alors que Stephen King a écrit Shining, c'est vraiment de la branlette de traducteur. Regardez, je vais appeler ça un Shining, ça fera un clin d'œil, mais ferme ta gueule, quoi. J'ai envie de gifler le traducteur.
Le brillant, c'était très joli.
Mais la lumière, comme ça.
Et alors, en théorie, c'est une sorte d'élu. C'est une sorte de chosen one, de mec qui a le plus gros shining, enfin shine, des enfants, et grâce à lui,
il a un shine
de malade, et grâce à son shine, on peut exploser la tour, quoi. Et donc
d'ailleurs, on a oublié de dire que ce pouvoir, ces midi-chloriens là, font que il est médium, et donc c'est pour ça aussi qu'il a ce genre de rêve, etc.
Bon, s'ensuit une sorte de bagarre plus ou moins moisie avec l'homme en noir.
Alors, on spoil direct. Bon, bah voilà, à la fin, ça se finit. Ouais. Et en fait,
ils sont spoilés de toute façon.
Ouais, enfin, c'est ça.
On peut parler du saut du requin qui a quand même un moment, parce que qui peut tuer ce mec? Et tout à coup, l'autre, il réussit par un espèce de truc de prestidigitation à
tirer deux balles.
C'est aberrant en plus, d'un point de vue mathématique physique. C'est-à-dire que t'en as une qui va en ligne droite et l'autre, il la tire après. Et en plus, il la tire elle fait un double chemin. Elle peut pas arriver en même temps. C'est impossible.
Enfin,
tu vois, bref,
oui, bien sûr.
Il y a une espèce de tour de passe-passe où il réussit à tuer le méchant, mais c'est nulissime. Et ensuite, en une balle, il explose la base des méchants. Et c'est bon, ça y est, c'est réglé, quoi.
Mais en fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est que.
C'est nul.
Voilà, il y a un méchant qui veut utiliser Jake. En fait, si tu peux le résumer, en fait, on vous l'a résumé en 1000 ans, mais on peut le résumer en une phrase. C'est un méchant veut utiliser le héros pour détruire le monde, et les héros tuent le méchant. Et il ne se passe que ça, en fait. Vraiment.
Oui, c'est vrai.
C'est pas comme s'il y avait vraiment des quêtes secondaires, des choses comme ça. Pas vraiment, en fait.
Non, pas du tout.
J'ai cru qu'à un moment, il y avait un truc... il pouvait avoir quelque chose d'un peu drôle avec le fish out of the water, avec Idris Elba qui arrive dans le monde normal, dans le New York qu'on connaît. Mais là aussi, il passe à côté de toutes les blagues qu'il aurait pu faire. Genre, il aurait pu rentrer dans une armurerie, par exemple, le pistolero, et être comme un dingue devant autant de guns, par exemple, tu vois, parce que justement, ils sont en pénurie de balles chez eux, etc. Mais pas du tout.
Après, c'est pas mal qu'ils fassent pas de blagues, parce que c'est pareil, les blagues dans les films sérieux, tu vois, dans les films SF, plus ou moins sérieux, etc., c'est fatigant aussi, quoi.
Moi, je trouve que, par contre, ce film, il manque beaucoup d'humour, en fait. Ça se prend beaucoup trop au sérieux.
C'est vrai.
Et mal.
Imagine les blagues qu'il aurait faites. Imagine les blagues qu'il aurait faites. Déjà que sans faire de blagues, c'est nul. Imagine ce qu'il aurait pu faire, tu vois, en faisant des blagues, quoi.
En fait, moi, j'aurais bien aimé un gosse un peu... Comment dirais-je, tu sais, un peu...
Albinos, déjà.
Gothique. Un peu, tu sais, gothique, cynique, un peu, tu vois. Ça aurait été quand même drôle d'avoir justement un personnage un peu drôle. Quand il est avec son pote, montrez-les-nous en train de jouer à la Xbox, quelque chose.
Alors qu'ils ont une vieille voiture.
Ils sont assis dans sa chambre, ils font rien. J'y crois pas du tout à tout ce qui se passe dans ce film. En fait.
Y a rien de vrai.
On voit une scène d'un quart de seconde dans un lycée.
On a déjà vu un milliard de fois.
Voilà, avec une brute qui vient te piquer le cahier. Et c'est la situation est réglée en 4 secondes. En fait, je sais pas. Je crois qu'il y a un problème de langue.
Inutile.
Je pense que le Danois, Nicolas, blablabla, ne parle pas très bien anglais. Du coup, il a pas pu faire ce qu'il voulait pour son film. Je vois pas trop.
Mais il aurait dû le sortir en danois, tu vois.
Ce qui est sûr, c'est qu'il va pas du tout y avoir de. Parce que c'est setup pour une franchise, ça, clairement. Ouais. On l'a dit, il y a 12 tomes de livres, etc. Mais ça, il fera jamais une suite de ça. C'est pas possible.
C'est horrible. Ou alors, c'est pas lui. Ou alors c'est Alain Chabat qui va récupérer la franchise, tu vois, qui va faire genre « Ok, j'arrive avec tous mes potes et on fait un truc bien, tu vois. »
Il y a des gens qui disent que c'est un blockbuster. Personnellement, je ne vois pas plus de thunes à l'écran que dans Resident Evil Annihilation.
Complètement.
Tu vois. Donc complètement. Moi, je vais regarder vite fait le budget, mais clairement, si tu me dis que ça a coûté plus de 20 millions de dollars, il y a eu détournement de fonds, c'est sûr.
190 millions, je crois, ou quelque chose comme ça.
Tu déconnes, n'importe quoi. Budget 60 millions de dollars. Clairement, franchement, 60 millions, c'est... Moi, je te fais un... Voilà, comme je te disais, un Resident Evil, je vois les mêmes effets spéciaux à l'écran.
Tu vois, c'est dommage, l'affiche, elle est belle.
Peut-être qu'ils ont tout donné au graphiste qui a fait...
C'était 40 millions de dollars, l'affiche.
Le reste, tu te débrouilles. C'est le meilleur photoshopper de l'histoire.
Non, mais t'as l'impression qu'il y a 5-6 mecs qui ont tourné en même temps un film et qu'ils ont mixé tout ça dans une salle de montage en disant, ça, on le met là, ça, on le met là. Chaque scène, ça fait pas bloc du tout, ce film. Il fait pas bloc. Il fait pas bloc, tout est mélangé. Soit toi ça t'a pas gêné, mais moi ça me gêne que d'un côté on sous-entende qu'on vit dans un monde où à une époque les animaux étaient doués de parole. Là on est typiquement dans le conte de fées, Et à côté de ça, t'as des portails interdimensionnels qu'on a créés grâce à la science, tu vois, grâce à une technologie hyper avancée. Mmh. Et donc tu peux te permettre de croiser le conte de fées et la science, mais il faut que tu t'appuies sur un arc narratif, que tu expliques pourquoi, dans quel monde tu vis et comment ces deux choses peuvent coexister. Là, c'est pas expliqué du
tout.
Non,
mais mec, tu commences, c'est fait pour le 2, ça. Ils vont voir t'expliquer le 3. Comment les autres mondes fonctionnent comme ça.
Non, mais l'audio.
Mais là, c'est vraiment une purge.
Du coup, je sais pas comment. Je me mets à la place d'un type comme toi, Stephen King. Il va au cinéma en disant tiens, ils ont adapté mon livre et tout, c'est génial. Tu vois,
tiens.
Non, mais tu dois être super content. En plus, tu as touché du fric et tout, donc tu t'installes. Et là, tu vois ça, quand tu sors de la séance, tu te dis mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait.
En fait, là, la vérité, c'est qu'effectivement, ça doit lui faire très mal parce que c'est son...
C'est son préféré, il a toujours dit, voilà. C'est ma saga préférée.
Son préféré, c'est une saga, en fait, tu vois. Qu'on te fasse un téléfilm du fléau, et encore, même le téléfilm, il était plutôt pas mal, je trouve, à l'époque, et qu'on le réussisse plus ou moins pas, c'est, au pire, tu te dis, c'est un téléfilm, c'est pas très grave.
Ouais, mais là...
Mais là, quand c'est le truc qui te suit depuis 15 ans et que tu le foires comme ça... Ouais, ça doit se dire bon. Ouais, je pense que maintenant, de toute façon, il a l'habitude de fermer les yeux sur dès qu'il vend les droits à une compagnie, à une majeure américaine. Mais voilà. Quels sont vos miams pour ce film?
C'est sur 5 déjà les miams.
Ouais.
0,5.
Moi, ouais, pareil, 0,5, je pense.
J'en donne 1 pour les 10 premières minutes qui m'ont enthousiasmé.
Moi, c'est 0,5 que pour la mère.
Salaud. Non, mais les 10 premières minutes, j'ai cru que ça allait, qu'on allait vers un film un peu, tu sais, à La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet. J'avais un super beau film avec des enfants comme ça qui sont utilisés.
Qu'est-ce qui t'a fait penser que ce serait... Ah oui, d'accord, juste parce que les
enfants
sont utilisés.
Oui, parce que ce pitch-là, des enfants utilisés comme esclaves...
Ah, mais c'est ça, c'est vrai que c'est ça qui ressemble à... Ah, ça, pour le coup, ça aurait pu ressembler à du Sucker Punch un peu.
Non, mais en plus, si tu veux, les 10 premières minutes, j'ai trouvé ça enthousiasmant parce que ça commence comme... T'as l'impression d'être au milieu d'un petit village américain avec des enfants qui jouent. Et puis d'un coup, paf, il y a 2-3 détails qui apparaissent.
Putain, mais j'avais totalement oublié ça, qu'effectivement, ils font vivre les enfants dans un village dans le monde.
Du coup, tu comprends pas, on t'en reparle plus jamais.
Non, t'en reparles plus. Tu sais même pas.
Du coup, je comprends pas, est-ce qu'ils les kidnappent pendant longtemps ou ils les utilisent qu'une seule fois?
Non, c'est surtout qu'ils sont morts. À la fin, quand ils
explosent la base. Mais non, ils sont pas morts parce qu'ils retrouvent un SDF qui était un enfant comme ça.
Oui, mais quand ils explosent la base, tu vois.
Ah oui, c'est vrai qu'ils les ont tués.
Ils ont tué tous les gamins, quoi. On a rien à branler. Pof.
Ah oui, c'est
tu vois, on parlait tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'on pourrait pas balancer une bombe sur la Corée du Nord et tuer des
Ah oui, du coup, Idriss Elba ne se pose pas
question. Bah lui, il en a rien à secouer, tu vois. Et là, genre, bon, Corée du Nord terminée. Next.
Ouais. Non, bon.
0,5.
Écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ah oui, juste rapidement, je vais en profiter. Non, en fait, je vais en profiter de rien du tout. Je vais couper ce que je viens de dire parce que j'ai les mails de quelqu'un, mais je les lirai pour un prochain épisode. Non, mais rien.
Merci, au revoir.
Je parle tout seul. Non, mais je suis fatigué.
Vous voulez savoir maintenant, c'est les mails de qui, de quoi, qu'est-ce qu'ils sont dit dedans?
Non, mais c'est le mail des auditeurs qui posaient des questions, mais j'ai oublié et il faudrait que j'ouvre le...
Mais tu veux pas qu'on parle de Dunkerque? Parce que moi, je suis trop chaud pour parler de Dunkerque. Tu l'as vu ou pas?
Non, j'ai pas vu.
Mince.
Non, parce qu'on va en parler ce week-end. Si tu veux, tu peux venir.
Je suis pas là.
Voilà. Dommage pour toi. Rapidement, j'avais oublié de te demander tes miams pour Valérian et quoi déjà? On avait parlé d'un autre film.
La
Planète des singes.
La Planète des singes, je lui mets 4.
Ouais.
Ah ouais, 4. Et Valérian, je lui mets 3,5. Moi, j'ai aimé Valérian.
Ah oui, ok. Moi, je mets 3,5 pour La planète des singes et 2.
Et demi.
Non, 2 pour Valérian.
Moi, pour La planète des singes, pour la bande-annonce, je mets 4 sur 5, ce qui a l'air
alors,
bien
calme. Alors, c'est intéressant parce que moi, par exemple, dans La planète des singes, j'ai cru que Woody Harrelson allait vraiment être beaucoup plus charismatique que ce qu'il a fini par être dans le film, en fait. Parce que dans la bande-annonce, c'est très très bien fait, de ce film. Voilà, c'était le...
Après, il y a une vraie réflexion sur le quotient intellectuel global, tu sais, qui est en train de chuter sur la planète Terre. On s'en aperçoit, j'ai lu des études. Et en fait, ils disent pas autre chose.
J'ai lu des études. T'as lu des articles sur Huffington Post.
Bien sûr.
Des études scientifiques sur ça.
Mais c'est l'article
sur sur PubMed, là. PubMed Post.
Je suis jamais allé sur PubMed de ta vie. T'as vu le nouvel homme.
Il me fait chier. J'espère que...
C'était bon, vas-y, refais-la,
refais-la. Et donc, c'est exactement ce qui se passe dans le film, sans spoiler, tu sais, avec les humains qui ont du mal à
formuler
ouais,
des...
Non,
ouais.
Voilà. Bah, 4, j'ai dit 4.
T'es en train de dire qu'on devient con comme les...
Oui, voilà.
Comme des primates.
Et sans le virus, tu vois. Enfin, le virus s'appelle...
Enfin, sans le virus, je sais pas. Hein, est-ce que tout ce qu'ils nous mettent dans nos vaccins, est-ce que c'est pas ça qui nous rend
espèce de
tiers
d'enfant,
hein, des excipients de singes.
Ah voilà, avec votre aluminium là et tout ça, bravo.
Bravo.
Allez, rejoignez-nous tous sur terreplate.com. Bon, n'oubliez pas d'ailleurs d'envoyer vos mails avec vos questions sur fin de séance à gmail.com. On les lira, promis, la prochaine fois. En attendant, merci à vous deux du coup.
Avec plaisir.
Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode avec un meilleur film, j'espère.
Salut.
J'espère, ouais.
Un peu la tristesse de Blockbusters cet été. Hein. Non, c'est pas grave.
Au revoir.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.